Chapitre 47. Naissance de Jésus notre Seigneur. Je vois encore l'intérieur de ce pauvre refuge pierreux où, partageant le sort des animaux, Marie et Joseph ont trouvé asile. Le petit feu sommeille ainsi que son gardien. Marie soulève doucement la tête de sa couche et regarde. Elle voit Joseph, la tête inclinée sur la poitrine, comme s'il réfléchissait, et elle pense que la fatigue a triomphé de sa bonne volonté de rester éveillée. Elle sourit d'un bon sourire. Faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose, elle s'assied, puis s'agenouille. Elle prie avec un sourire radieux sur le visage. Elle prie, les bras étendus, non pas précisément en croix, mais presque, les paumes dirigées vers le haut et en avant, et elle ne paraît pas fatiguée de cette pose pénible. Puis, elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une prière prolongée. Joseph s'éveille. Il voit le feu presque mort et les tables presque dans les ténèbres. Il jette une poignée de brindilles et la flamme se réveille. Il y ajoute des branches plus grosses, puis encore plus grosses, car le froid doit être piquant. Le froid de la nuit hivernale et tranquille qui pénètre partout dans ces ruines. Le pauvre Joseph, tout près comme il est de la porte, appelons ainsi l'ouverture que son manteau essaye d'obstruer, doit être gelé. Il approche les mains près de la flamme, défait ses sandales et approche ses pieds. Il se chauffe. Quand le feu est bien pris et que sa clarté est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, pas même cette blancheur du voile de Marie qui traçait une ligne claire sur le foie obscur. Il se lève et lentement s'approche de la couchette. « Tu ne dors pas, Marie ? » demande-t-il. Il le demande trois fois, jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et répond « Je prie. Tu n'as besoin de rien ? Non, Joseph. Essaie de dormir un peu, de reposer au moins. J'essaierai, mais la prière ne me fatigue pas. Adieu, Marie. Adieu, Joseph. » Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille près du feu et il prie. Il prie avec les mains qui lui couvrent le visage. Il ne les enlève que pour alimenter le feu et puis il revient à sa brûlante prière. À part les crépitements du bois et le bruit du sabot de l'âne qui de temps en temps frappe le sol, on n'entend rien. Un faisceau de lumière lunaire se glisse par une fissure du plafond et semble une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Il s'allonge peu à peu à mesure que la lune s'élève dans le ciel et l'atteint finalement. Le voilà sur la tête de l'Orante. Il la nimbe d'une blancheur éclatante. Marie lève la tête comme pour un appel du ciel et elle s'agenouille de nouveau. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève sa tête qui semble resplendir de la lumière blanche de la lune et elle est transfigurée par un sourire qui n'est pas humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Il n'y a qu'elle qui pourrait dire ce qu'elle vit, entendit et éprouva à l'heure fulgurante de sa maternité. Je me rends seulement compte qu'autour d'elle, la lumière croît, croît, croît. On dirait qu'elle descende du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'environnent, qu'elle émane d'elle surtout. Son vêtement d'azur foncé a à présent la couleur d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Les mains et le visage semblent devenir azurés, comme s'ils étaient sous le feu d'un immense éclair saphir. Cette couleur me rappelle, bien que plus légère, celle que je découvre dans la vision du Saint Paradis et aussi celle de la vision de l'arrivée des mages. Elle se diffuse surtout, toujours plus sur les choses, les revêt, les purifie, leur communique sa splendeur.